Europe 1, en balade avec Cédric Clapiche. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Cédric Clapiche que nous partons en balade aujourd'hui. Le réalisateur de l'Auberge espagnole, des Poupées russes, de Paris, d'Un air de famille, du Péril jeune, a tourné la plupart de ses films dans Paris, qui reste à ses yeux la plus belle ville du monde. Il nous emmène aujourd'hui nous promener dans l'Est parisien, là où il a tourné 2 mois son nouveau film, qui sort mercredi.
Europe 1, en balade avec Cédric Clapiche. Frédéric Taddeï.
Bonjour Cédric Clapiche.
Bonjour.
Vous nous avez donné rendez-vous place de la Réunion, dans le 20e arrondissement, une des plus jolies places de Paris et une des moins connues d'ailleurs.
Oui, parce qu'au départ, elle semble banale et puis en fait, elle a une forme très particulière. C'est un rond.
Elle est toute ronde.
Elle est toute ronde. On est au centre du rond. Il y a une fontaine. Et elle est particulière parce que c'est des petites maisons en fait. Du coup, on ne se sent pas écrasé comme dans plein d'endroits.
En effet,
dans
ça ressemble à un décor de film des années 30, de Julien Duvivier ou de Marcel Carné. Il y a cette fontaine et puis il y a le jardin méditerranéen là-bas, vous le connaissez ?
Non, ça je ne connaissais pas.
Il est planté d'arbres. Il y a des cyprès, il y a de la lavande, du jasmin. Ça sent la Méditerranée.
Ouais, mais c'est ça qui est assez impressionnant dans ce quartier. Moi, je le découvre un peu en ce moment. Moi, j'habite dans le 11e, je suis pas très loin, je suis à 5 minutes à pied, mais il y a tout un coin qui est vers la rue des Orteaux, vers la rue de Charonne et qui vient jusqu'ici, qui a un côté, justement, il y a un petit jardin, c'est des petites maisons, et il y a un côté qui est assez charmant, disons. Il y a des restos, notamment, qui ont ouvert, qui sont vraiment sympas.
Devant nous, dans la rue Alexandre Dumas, il y a la très belle église Saint-Jean-de-Bosco, qui est l'église Art déco.
Très étonnante.
Ça fait un peu Miami Beach.
Ouais, c'est ça. Ça fait effectivement années 30, et avec une architecture qui est vraiment troublante, en tout cas. Ouais.
Et c'est sur cette place qu'était né le comité des mal logés dans les années 80. Vous savez, il y avait eu des incendies criminels.
Ouais, je me souviens.
Vétuste. Ouais. Les gens avaient campé sur cette place pendant assez longtemps, une 60aine de personnes. Ça avait donné droit au logement.
Ouais.
Et tout un passé.
Le DAL. Ouais.
Le DAL, tout un passé politique sur cette place. Je crois que vous avez 58 ans cette semaine.
Absolument, demain. Ouais.
58 ans, c'est un bel âge pour un cinéaste. C'est là que Hitchcock a fait Vertigo, c'est considéré comme
c'est
son chef-d'œuvre.
Ah bah...
Il y a John Ford a fait L'Homme tranquille.
Bonjour.
Bonjour, il y a des jeunes garçons qui passent. L'Homme tranquille qui a été son plus gros succès.
Ça met la barre haute parce qu'effectivement Vertigo, c'est...
Clint Eastwood, c'est là où on a commencé à le prendre en sérieux en tant que réalisateur avec
D'accord.
Bird.
D'accord, avec Bird. C'est maintenant que tout commence.
Oui, ouais. Alors bon, il y a Luc Besson qui a fait Valérian, qui a été son plus gros flop. Mais...
D'accord, qui avait 58 ans aussi. Mais j'espère être sur la pente Kurosawa et Hitchcock.
Ouais. Oui, c'est vrai. Kurosawa, c'est toujours un de vos réalisateurs préférés.
Toujours, et puis ce que j'aime bien, c'est que je crois que son dernier film, Madadayo, il a dû le faire à plus de 80 ans. Et ça donne beaucoup d'espoir quand on est réalisateur de se dire, voilà, j'aimerais arriver à faire Madadayo à 80 ans. Quoi.
Vous avez fait 13 longs métrages de fiction déjà, Cédric Clapiche. Il y en a qui ont été de très très gros succès, comme L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, Un air de famille. Et d'autres, puis il y a eu quelques échecs. Est-ce que vous, quand vous regardez, est-ce que vous trouvez que c'était justifié? Est-ce que vous trouvez une logique dans l'échec et le succès? Est-ce que le public a toujours raison au fond?
Non, il n'a pas toujours raison. Mais je trouve ça justifié, les chiffres. Après, par exemple, peut-être on a jugé que c'était un échec, ça fait 800 000 entrées.
Peut-être, c'était avec Romain Duris et Jean-Paul Belmondo, c'était en Paris, enfoncé sous les sables.
Voilà, c'est ça, c'était un film futuriste et un film beaucoup plus loufoque que les autres films que j'ai fait, plus BD, je dirais. Mm-hmm. Et ce film a fait 800 000 entrées, et puis Le Péril jeune a fait 600 000 entrées. Donc,
oui, mais Le Péril jeune n'avait pas coûté beaucoup.
C'est ça, voilà. C'était le ratio argent qui est différent. Mais c'est vrai que Le Péril jeune a été vu autrement. Il a été vu en cassette beaucoup
d'abord
à l'époque.
D'abord à la télévision.
C'était
un programme.
C'était Arte, oui.
Ouais.
C'était un téléfilm, mais qui est devenu un long métrage un an plus tard. Et puis donc, il y a eu 600 000 entrées. Puis ensuite, il y a eu le phénomène cassette où les gens l'ont beaucoup vu en cassette puis en DVD.
Alors moi, j'ai regardé, par exemple, les deux films de vous que je préfère, c'est les deux qui ont moins bien marché.
C'est vrai? C'est
oui,
quoi,
c'est,
alors
bah, c'est Ni pour ni contre, bien au contraire. Ouais. Je trouve un film de braquage très, très réussi. Et rien du tout.
Qui a fait 500 000 entrées.
Oui, qui était mon
premier long métrage.
Premier long métrage sorti au cinéma, ouais. Oui, avec Fabrice Lucchini à l'époque.
Ouais.
Pas encore star.
Non. Non, mais pour revenir à ce que vous disiez, il y a des exemples célèbres. La règle du jeu de Renoir n'a pas eu beaucoup d'entrées. C'est vraiment un des plus grands films du cinéma français. Et puis à l'opposé, il y a des films qui ont beaucoup marché et qui sont pas super intéressants. Donc je pense que le public a pas toujours raison. Après, puisque ce que vous dites vous, c'est qu'il y a des films que vous préférez qui ont moins marché que d'autres. Donc en étant réalisateur, je suis spectateur de ça. Je vois bien comment chacun finalement choisit ce qu'il a envie de prendre.
Europe 1, 11h30, en balade avec Cédric Clapiche. Frédéric Taddeï.
Deux mois, votre 13e film, donc
ouais.
Sort mercredi. Vous avez un peu peur, vous êtes...
Non, j'ai pas peur, j'ai envie que ça sorte. Donc j'ai une espèce d'excitation.
Qu'on en
finisse. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, je suis curieux de voir justement
ça
si le film...
Ça fait combien d'années que vous travaillez dessus? Parce que c'est vrai.
Ça fait un an et demi, presque deux ans, un peu plus d'un an et demi. Et c'est vrai que c'est l'aboutissement de quelque chose, où c'est un travail qu'on fait justement pour que les gens le voient. Et donc on espère que les gens, mercredi à 14h et ensuite, iront dans les salles pour voir le film. C'est vraiment, c'est un enjeu en tout cas.
Et vous allez nous emmener un peu partout où vous l'avez tourné d'ailleurs, parce que pour moi vous êtes vraiment un cinéaste de Paris. Au fond, on pense toujours à l'Auberge Espagnole, aux Poupées Russes, mais la plupart de vos films, vous avez vraiment tourné dans Paris. On sent bien que vous cherchez des endroits particuliers.
Oui, c'est Paris. Ça. Puis c'est une ville qui évolue beaucoup. Là, justement, ici, on est dans le 20e et le 20e est vraiment en train de changer beaucoup. Et de la même façon, je crois que tout à l'heure, on va aller dans le 18e et le 19e. Et c'est pareil, c'est des quartiers qui changent très, très vite. Et beaucoup de gens sont nostalgiques du vieux Paris. Moi, je suis pas nostalgique de ça. Je suis observateur des endroits réussis. Et donc, du coup, un endroit réussi, ça peut être un endroit très moderne. Donc j'aime bien regarder comment Paris évolue.
Eh bien, en route, on vous suit, c'est avec la piche.
C'est devant un paysage parisien que vous retrouverez dans deux mois le nouveau film de Cédric Clapiche, que la balade de Frédéric Taddeï et du réalisateur justement continue.
Nous voilà maintenant avec Cédric Clapiche devant la gare Rosa Parks qui se trouve sur la ligne E du RER à la limite du 19e et du 18e arrondissement. Vous avez tourné ici, hein. Il y a une scène dans...
Absolument, c'est la scène où François Civil et Eye Haïdara mange des hamburgers, il pique-nique en sortant du bureau et donc c'est sur juste devant le tram là, qui est
alors
juste devant nous.
C'est effectivement un endroit très très animé parce qu'il y a beaucoup de gens. Je crois qu'il y a des millions de voyageurs par an.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment un hub de RER, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des trains, des RER. Là, on voit
un tram aussi qui passe.
Il y a un tram qui passe et puis on est sur le bord du boulevard extérieur, donc ça borde en fait le périph. Quoi.
Avec de l'architecture assez moderne qui doit beaucoup vous plaire, qui est plutôt.
J'adore.
Mais c'est plutôt joli. Hein.
C'est vrai. Non, c'est en fait avant c'est des entrepôts qui étaient très uniformes et très moches.
L'entrepôt du boulevard McDonald qui
Absolument.
Était sinistre,
qui
avec
était
des
sur le boulevard extérieur,
c'était affreux.
Et là, maintenant, c'est des immeubles très contemporains et je pense que c'est différents architectes. Et donc, il y a des choses rouges et bleues. Il y a un bâtiment avec des ronds et des croix. Ça fait un peu comme un espèce de jeu pour enfants. Il y a des immeubles qui sont plutôt en acier, qui ont des reflets avec le soleil qui sont assez intéressants.
Et puis, beaucoup de gens. Il se trouve qu'il fait très beau.
Alors,
à la
très
fois
beau.
Des CRS, des jeunes... Une population bigarrée, des chiens, des vélos.
Ouais, et c'est vrai que c'est une grande esplanade. Hein, donc, il y a un côté assez ample.
Mais la question que je me pose et que j'avais envie de vous poser, c'est avec Clapiche, comme je le disais, vous êtes quand même pour moi un cinéaste de Paris. Vous avez beaucoup tourné dans Paris. Est-ce que c'est difficile de tourner dans Paris? Quand vous faites tourner votre petite scène là où ils sont en train de pique-niquer, il y a quand même beaucoup de monde qui sort de la gare. Il y a des trams.
Le but,
c'est
que c'est le pire endroit pour pique-niquer. Quoi. Donc, effectivement, le but, c'était de montrer la population autour d'eux. Et il y a des gens qui sortent de la gare RER. Dès qu'il y a un RER qui arrive, il y a tout de suite, je sais pas, 500 personnes qui sortent.
Et c'est à peu près toutes les 6-7 minutes.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
Et comment vous faites? Vous avez 6 minutes pour tourner.
Ben, on faisait ça, c'est-à-dire qu'on se calait sur le passage d'un tram et on savait qu'on avait c'est à peu près 6 minutes pour faire une prise sans qu'il y ait un autre tram qui passe. Ouais.
Frédéric Frédéric Taddeï se balade avec Cédric Clapiche sur Europe 1.
Oui, évidemment, mais ça complique et en même temps, ça doit vous amuser, non ?
Oui, c'est un
peu le jeu.
Parce
que vous y retournez à chaque fois.
Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est le jeu d'une ville où il faut... on peut pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut pas juste tout bloquer. Il n'y a que les Américains quand ils font des gros films avec Tom Cruise en moto sur les Champs-Élysées où là ils bloquent tout.
Ouais.
Mais nous on n'a pas cet argent-là, donc on utilise la ville telle qu'elle est. Donc les gens passent, il faut juste qu'ils soient un peu flous pour pas qu'ils soient trop présents à l'image.
Voilà un tram.
Voilà un tram, donc je vous donne rendez-vous dans 6 minutes.
Et un autre, tout de suite après.
Oui, parce qu'ils vont dans les deux sens.
Ils vont dans les deux sens, ils se croisent. Alors je me souviens que c'était Jean-Pierre Jeunet qui avait dit que Paris devenait de plus en plus hideux. Et on se souvient que dans Amélie Poulain, d'ailleurs, il avait filmé un Paris qui ressemblait plus au Paris de Doisneau qu'au Paris d'aujourd'hui.
Oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'il aime, Jean-Pierre. Il aime bien le Paris de Marcel Carnet, quoi. Donc, c'est ce qu'il cherchait dans Amélie Poulain. Moi, je trouve que dans les choses contemporaines, il y a plein de choses très belles. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis venu ici.
Et souvent cinématographique, parfois on n'a pas envie d'habiter là, mais en image, dans un film, on peut trouver ça très beau.
Absolument.
La gare Rosa Parks.
Voilà, on entend le train qui vient d'arriver. C'est sûr qu'habiter devant, c'est peut-être pas... Il faut avoir des bonnes vitres, disons. Mais en tout cas, je trouve que ça crée des beaux espaces assez larges.
Là, tout ce qui est autour de nous est assez harmonieux, au fond. Hein. Et vous êtes un des rares défenseurs, je crois que vous avez été un des rares défenseurs de la Tour Triangle. Un projet d'une grande tour à la porte de Versailles.
Oui, c'est-à-dire que c'était plus général que ça. C'était sur les tours de grande hauteur dans Paris. Je trouve que
les Parisiens n'aiment pas beaucoup ça.
Non, oui. Alors que moi, j'ai habité plusieurs années à New York, et c'est vrai que quand on a habité une ville où il y a des tours, on sait que ça peut être beau, quoi.
Et en plus, ça ferait baisser le prix du mètre carré.
Absolument. Non, ça a différents avantages. Mais donc, je crois que nous, on a été traumatisés par les cages à lapins des années 70. Et on se dit, l'architecture moderne, c'est forcément ça.
Et par la tour Montparnasse, peut-être aussi.
Et oui, la tour Montparnasse, qui est très moche, quoi. Donc, c'est vrai que les tours construites maintenant sont plus belles. On fait attention, quoi.
Oui, effectivement. On continue notre balade dans Paris avec Cédric Clapiche.
Cédric Clapiche aime montrer des scènes, des moments de vie dans ses films, et c'est de ça dont ils sont témoins avec Frédéric Taddeï en déambulant dans les rues de Paris.
Avec Cédric Clapiche, dont le nouveau film « Deux mois » sort mercredi, nous allons passer sous la gare Rosa Parks pour là où un TGV vient de s'arrêter. D'ailleurs.
Il y a des TGV. Il fait un bruit de baleine.
Ouais. Oui, il va vers la gare du Nord ou... La gare Saint-Lazare, qui se trouve à quelques minutes d'ici, par le rail. On va rentrer dans la gare Rosa Parks. Il y a tous ces gens qui vont travailler, qui sortent du travail, qui se rendent au travail.
Il y a un papa qui a une poussette et qui est sur des...
Sur
un skate.
Hein. Il n'est pas sûr qu'il aille travailler, lui. Enfin, les autres, on les voit. C'est le monde du travail. Vous êtes toujours intéressé, Cédric Clapiche. Encore une fois, dans 2 mois... Le film démarre sur vos deux héros dans leur travail respectif.
Ouais.
Je me souviens que Rien du tout, votre film avec votre premier film avec Fabrice Luchini, c'était un des premiers films en France qui se passait dans le monde de l'entreprise.
Ouais.
C'est devenu une mode depuis, mais à l'époque c'était encore assez inédit.
C'était assez tabou, je dirais. C'est-à-dire qu'on se disait que parler du bureau, du monde du travail, c'était un endroit où il se passait rien, où c'était un peu chiant. Et c'est vrai qu'évidemment, il se passe plein de choses intéressantes dans ces endroits-là. Et donc là, dans le film de moi, effectivement, elle est chercheuse, donc elle travaille à l'Institut Curie.
Comme votre père, je crois que votre père était chercheur.
Alors, ouais, absolument, un chercheur en physique, lui. Et donc, elle est chercheuse. Lui, il travaille plutôt dans un entrepôt, comme on imagine les entrepôts de la Fnac ou Amazon, où il y a des milliers d'objets qui sont prêts à être envoyés dans des colis. Et donc il est un peu perdu au milieu de ces milliers de boîtes et de ces rangées infinies.
Ça aussi, vous trouvez ça cinématographique, j'imagine, ce grand entrepôt comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'y travailler, mais il est très beau à filmer.
Oui, et puis c'est vraiment la représentation pour moi de notre époque. C'est-à-dire qu'on est tous en train de cliquer pour avoir accès à des objets. Et donc on le fait à la fois pour avoir une pizza ou un burger, mais aussi on le fait pour avoir des livres et des DVD. Et donc du coup, les endroits qui stockent ça, c'est les nouveaux magasins où il n'y a personne, c'est les magasins qui envoient ces choses-là. Et je trouve que ça raconte assez bien notre époque. Ouais.
Mmh. votre film, c'est l'histoire de deux déprimés. Alors je me suis dit, si ça avait été une comédie italienne, ça aurait été deux déprimés hilarants et interprétés par Alberto Sordi et Manny Cavity. Si ça avait été un film américain, ils les auraient montrés déprimés pendant les 10 premières minutes du film et puis ils seraient allés à Las Vegas et il leur serait arrivé plein de trucs. T'es. Mais là, c'est un film français, le naturalisme français oblige, ils sont vraiment déprimés et vraiment déprimants. C'est pas du tout une comédie.
Non, c'est fait pour partir de très bas.
Oui, c'est D'ailleurs, vous les avez habillés aussi comme des déprimés. Je me suis dit.
J'ai pas été trop loin dans le côté.
Non, mais enfin, quand même.
Mais
je me suis dit que l'habilleuse avait dû aller faire des recherches.
Oui, ouais, mais même les acteurs, ils étaient super en demande de leur.
François Civil et Anna Girardot.
Ouais, c'est eux qui ont participé au choix et ils aimaient bien leur costume. C'est vrai que je crois qu'il y a un truc comme ça où. On est dans une époque où on vous dit si ça va pas bien, c'est de votre faute, quoi. Donc du coup, si on est au chômage, c'est votre faute. Si vous êtes emmerdé par les gens autour de vous dans votre bureau, c'est de votre faute. Enfin, donc il y a quelque chose qui est très responsabilisant et où du coup, les gens, je pense que ils vont pas bien, quoi. Et il y a moins des solutions collectives comme il y avait avant. Le syndicalisme est moins présent. Les gens s'inscrivent moins dans des partis. Donc, ils se sentent plus seuls dans leurs problèmes. Quoi.
Mais en même temps, quand vous amenez à votre producteur ou à votre distributeur, votre futur distributeur, un scénario qui parle de déprimés, comment l'accueille-t-il ?
Eh ben, non, au début, ça fait plaisir à personne. Et puis ensuite, ils lisent le scénario et je pense qu'ils ont tous été assez émus par l'histoire. Et du coup, il se passe ce qui se passe dans les salles. Là, en ce moment, je voyage à travers la France pour montrer le film. Et je sais pas s'ils n'ont pas entendu parler du pitch du film, mais en tout cas, les gens aiment bien. Donc, ça prouve qu'on peut parler de ça et quand même avoir de l'adhésion un peu.
Eh bien, je vous propose de faire écouter aux éditeurs d'Europe 1 la chanson qui les déride un peu tous les deux dans deux mois. C'est... Histoire d'un amour chantée par Gloria Lasso. Je crois que c'est le moment où Anna Girardot esquisse son premier sourire.
Non, il y en a avant.
Mais
en tout cas, c'est sûr que cette chanson est à la fois extrêmement romantique et langoureuse et en même temps, elle réveille. Quoi, ouais.
Elle réveille
parce que les paroles sont bien.
Europe 1, en balade avec Cédric Clapiche.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte est la complainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou viennent d'ailleurs. C'est la flamme qui m'enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le roulon sans lasse. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. qui ne finira
C'était Histoire d'un amour, interprété par Gloria Lasso. On se retrouve dans un instant avec Cédric Lapiche.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï est en balade dans la capitale avec le réalisateur, scénariste et producteur Cédric Lapiche. On les retrouve tout de suite dans le 19e arrondissement de Paris.
Nous sommes en balade avec Cédric Lapiche, le réalisateur de L'Auberge espagnole, du Péril jeune, de Ni pour ni contre... Et de deux mois qui sort mercredi. Nous promenons dans l'Est parisien. On est rue de l'Ourcq, où il y a des policiers à vélo en patrouille, du soleil, beaucoup de monde.
Nous passons devant la librairie, la Lucarne des écrivains. Non, c'est agréable de marcher comme ça dans Paris quand il fait beau. Il y a un côté fin d'été qui est assez agréable.
Et oui, on a tendance à l'oublier, mais c'est toujours l'été en septembre. Hein. J'ai remarqué que vous aimez bien les histoires où l'amour est juste à côté de nous et où on ne le voit pas. Hein, c'est le thème principal de moi, mais c'était aussi dans Chacun cherche son chat, dans Les poupées russes, dans Ma part de gâteau.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, je pense que l'amour, c'est un sujet qui occupe pas mal de gens. Enfin, tout le monde, surtout quand on est célibataire, on a envie de tomber amoureux. Et du coup, forcément, c'est une chose assez mystérieuse de savoir... comment ça va arriver, avec qui ça va arriver. Et je crois qu'on est tous assez clients de ça, de cette histoire-là. Donc,
oui, mais en même temps, ça me paraît toujours bizarre qu'on puisse être à côté, je ne sais pas, moi, être copain d'une femme pendant, ou d'un garçon, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et puis un jour se rendre compte qu'on est amoureux d'elle. Ça m'a toujours paru...
Ça s'appelle « Quand Harry rencontre Sally ».
Voilà, j'ai du mal à croire. Ça, pour moi, ça me sont des fables.
Oh, j'ai eu des amis hein, on apprend 20 ans plus tard qu'ils ont fini ensemble.
Ouais. Mais ça peut être parce qu'ils étaient habitués l'un à l'autre, et finalement...
Oui, mais justement, je crois que les chemins de l'amour sont assez incroyables.
En balade avec Cédric Lapiche, Frédéric Taddeï.
Bouddha dans deux mois, en fait, il ne se voit pas. Il ne se rencontre pas. Donc, le spectateur attend avec impatience qu'il se rencontre.
Ouais, c'est. Je voulais appeler ça. Justement, c'est l'histoire d'un amour. On raconte un peu ça, la chanson de Gloria Lasso. Mais j'avais envie de parler de la préhistoire de l'amour.
Vous n'êtes pas allé aussi loin que Claude Lelouch, qui lui, parfois, est capable de remonter jusqu'à Jésus-Christ pour expliquer pourquoi ces deux-là tombent amoureux en 1998.
Non, effectivement. Ouais.
Mais alors justement, vous êtes obligé de les confronter à les nouvelles manières de se rencontrer, les applis de rencontre. Aujourd'hui, c'est compliqué tout ça, c'est-à-dire en multipliant les possibilités de rencontre.
Ouais. C'est ça qui est paradoxal et troublant, c'est que c'est à la fois plus simple, parce que c'est plus facile de trouver quelqu'un à qui parler.
C'est juste parce qu'en fait, ça multiplie les possibilités.
Ça multiplie les possibilités, mais ça ne simplifie pas. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est plus simple, plus compliqué. C'est les deux à la fois. Quoi.
Mais bon, vous êtes aussi de votre génération. Pour vous, j'imagine que de se mettre en vitrine comme ça sur un site... C'est une manière de dire « je suis d'accord pour avoir des relations sexuelles », donc vous devez trouver ça un peu dégradant.
Non, parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui y vont, moi, je n'ai jamais utilisé, mais je vois à quel point il y a des gens qui adorent ça et qui trouvent ça bien, que ça les a émancipés, ça les a aidés.
Oui, au fond, c'est comme une boîte de nuit.
Ouais,
sauf qu'il n'y a pas l'alibi de la danse, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, moi, je n'ai pas de discours anti, en tout cas. Je trouve ça bien que les gens le fassent. Après, il y a le problème de l'addiction. Il y a beaucoup de gens qui racontent qu'ils tombent dedans et que c'est une espèce de truc vertigineux où ils ne savent plus où ils en sont. Ils attendent le retour de la photo qu'ils ont bien aimée, mais que cette photo ne répond pas. Et je pense que pas mal de gens deviennent fous avec ça. Mais en tout cas, ça dénonce quand même le fait qu'il y a un problème avec la réalité aujourd'hui. Et c'est vrai que pour notre génération, parce qu'on a la même... où on a connu, moi je sais que la première fois que j'ai dansé un slow avec une fille, il y avait ce truc du slow, et où le contact réel en direct avant la drague, c'était fort, alors que maintenant il y a la drague avant.
Oui, il n'y a plus de slow maintenant.
Il n'y a plus de slow, ouais. Et c'est vrai que c'est ce truc de la réalité, je trouve, qui manque le plus. C'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant la virtualité et le fantasme, et que finalement le contact avec la réalité manque un peu.
Mais je vois bien ce qu'est le message est assez clair de vos deux derniers films, Cédric Clapiche. Ce qui nous lie, ça n'est pas Internet, vous l'air de dire, c'est l'alcool, c'est l'ivresse, c'est la réalité. Ce qui nous lie, c'était votre dernier film qui se passait dans le milieu des vignerons.
Ouais.
Et je pense que c'est quelque chose d'important pour vous.
Le boire du vin.
Oui, mais surtout ce retour. Aux atomes, à une époque où on vit beaucoup parmi les bits numériques.
Ouais.
L'atome, on peut le toucher, quoi.
Ouais. Non, c'est sûr. Dans les deux films, il y avait le fait de faire la publicité de ce qui enivre, mais d'une façon
en vrai.
Réelle. Ouais, c'est ça.
On arrive à l'avenue de Flandre. On est dans le Paris de la Commune, hein, là.
Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est quartier populaire, quoi. Ouais.
Vous avez tourné ici
J'ai tourné un peu plus loin. On va arriver dans le quartier où j'ai tourné. Mais j'ai tourné donc au quartier Rosa Parks où on était, et puis aussi dans le prochain quartier.
Eh bien, on y va. On se retrouve là-bas.
Mercredi sort le nouveau film de Cédric Clapiche, Deux mois, tourné à Paris. Alors c'est tout naturellement que sa balade avec Frédéric Taddeï continue devant des lieux de tournage.
Nous voilà avec Cédric Clapiche au bassin de la Villette, à notre gauche le pont de la rue de l'Ourcq, qui est le dernier pont qui se lève quand passent les bateaux, et tout au bout la rotonde de la Villette. C'est le plus grand plan d'eau artificiel de la ville de Paris. Il y a des bateaux qui sont ancrés là. C'est très... on se croirait dans un petit port...
Plaisance.
Oui.
Non, surtout là, il fait toujours beau là, donc c'est cette ambiance fin d'été. Il y a plein de gens qui sont assis le long du canal à boire des coups, et il y a vraiment une ambiance méridionale, on va dire.
Vous avez tourné ici ?
J'ai tourné ici. On a tourné dans ce café là-bas,
qui est très joli, tout au bord de l'eau.
Voilà, la brasserie, la brouerie parisienne. Et on a tourné également dans un café qui est un peu plus loin. On va passer devant.
Et alors l'histoire nous dit que. C'est du temps de la grande épidémie de choléra en 1832. Les Parisiens qui venaient boire ici, c'était une réserve d'eau potable, qui venaient boire dans le bassin de la Villette, ont été plus épargnés par le choléra que ceux qui buvaient l'eau de la Seine, où il y avait toutes les eaux usées de Paris.
Bonne histoire.
Oui, donc c'est bien, il vaut mieux habiter là. Voilà, c'est de l'eau qu'on a pu boire.
Europe 1, 11h30, en balade avec Cédric Clapiche. Frédéric Taddeï.
Cédric Clapiche, vous êtes à l'origine de la série 10% qui a remporté un grand succès et qui a prouvé qu'une série française sur une grande chaîne de télévision pouvait intéresser un public jeune. Je crois que ça a été quasiment la première fois.
Ouais, ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Ouais.
C'est ça. Normalement, c'est quand même 10%, c'est quand même une série... vous auriez pu être plus cruel.
Oui, non, l'idée, c'était pas d'être cruel. L'idée, c'était vraiment d'essayer de fabriquer une série sur France 2 qui soit à la fois drôle et qui soit pas débile. Moi, je trouve que les séries anciennes de la télé, ça faisait un peu mal à regarder, quoi. C'était une autre génération, c'était un peu lent, c'était un peu...
Vous dites ancienne parce que vous voulez vous fâcher avec personne.
Non, ouais, mais enfin, voilà, tout le monde sait ce que c'est, que ce soit Joséphine, Louis la Brocante, ces séries-là, c'est... Enfin, moi, je peux pas regarder ça, quoi. Donc, ça correspond à aucune réalité d'aujourd'hui. Et donc, voilà, on avait envie de fabriquer quelque chose qui soit un peu plus dans la vie d'aujourd'hui, quoi.
Mais là où je disais que ça aurait pu être plus cruel, c'est qu'on sait très bien que vous auriez pu aborder des sujets, puisque c'est sur les coulisses du monde du cinéma, à travers les yeux des agents.
Alors justement, j'avais pas envie d'être cruel.
Des histoires de drogue, de
non, non, bien sûr.
D'argent, de
bon,
sexe,
alors après, vous
de
pouvez imaginer et... comment France Télévisions nous a pas poussé à voilà. Parler de drogue et tout ça, mais le but aussi, c'était de montrer un côté un peu plus normal des coulisses du cinéma. Et j'avais pas envie de juste me moquer des gens comme moi, réalisateurs, scénaristes, producteurs, acteurs. Je voulais justement parler de ces gens-là comme on aurait pu parler d'avocats ou des gens d'un commissariat de police qu'on voit dans une autre série télé, quoi.
Mais par exemple, au niveau des caprices de stars, réalisateur ou acteur d'ailleurs. Vous auriez pu aller beaucoup plus loin, mais personne ne vous aurait cru peut-être.
Non, en même temps, il y en a quelques-uns. Là, moi, j'adore l'épisode avec Isabelle Huppert, par exemple. On voit bien qu'il y a la caprice.
Rappelez-le pour ceux qui n'ont pas vu 10%.
Ben, c'est juste qu'elle a envie de faire tous les films qui passent. Quoi. Donc, une pièce de théâtre, un film taïwanais. Et donc, les agents deviennent dingues parce qu'ils sont obligés de gérer l'emploi du temps derrière, qui n'est pas facile.
C'est vrai qu'on a tendance toujours à se plaindre que les séries françaises sont trop gentilles, trop consensuelles, pas assez transgressives quand on les compare aux séries anglo-saxonnes. Mais est-ce que c'est pas lié aussi au bassin de population qui n'est pas assez vaste, tout simplement? Il faut séries sur France 2, il faut que ça plaise à tout le monde, aux 7 à 77
ans. Oui, puis nous,
ans.
On a.
Quand on fait une série sur HBO aux États-Unis, évidemment.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bah, on sait qu'en plus, on va l'exporter dans le monde entier, donc.
Ouais. Non, c'est sûr que les séries comme Oz ou les séries comme... Il y a plein de séries américaines qui sont faites sur le fait de choquer ou d'être transgressives.
Elles peuvent se le permettre.
Voilà. Et là, c'est vrai, quand on est sur France 2 ou sur TF1, on est obligé d'être consensuel parce qu'on est obligé de répondre à une demande d'un panorama large et tout ça. Donc la demande n'est pas du tout la même. Ouais.
Est-ce que vous n'étiez pas un peu entraîné déjà avec l'Auberge espagnole et ses suites, les poupées russes, casse-tête chinois? C'était déjà un embryon de série.
Ouais, c'est vrai, ça s'est fait un peu à l'envers parce que moi, au début, quand j'ai fait l'Auberge espagnole, je ne pensais pas faire de suite. Mais c'est vrai que ça m'a mis sur le terrain de voir des gens évoluer sur, non pas sur plusieurs saisons, mais dans plusieurs films. Donc quand j'ai repris les mêmes personnages dans les poupées russes, ben, j'ai fait un peu le travail que font les scénaristes quand ils passent d'une saison à une autre, où ils se disent, voilà, c'est quoi, quel est le dessin de ces personnages.
C'était ça l'intérêt.
Voilà, c'est ça. Enfin, ils ont vieilli tout seuls. C'est pas moi qui les ai vieillis.
À 30 ans, puis à 40 ans, bientôt 50, j'imagine.
Oui, absolument. Ouais. J'imagine que Romain doit avoir 46, un truc comme ça, 45.
Il y a une chanson qu'on entendait dans l'Auberge espagnole qui m'a marqué, parce qu'à l'époque, on l'entendait beaucoup en Espagne, en tout cas, peu de temps avant, c'était La Cochinera par Mala Rodriguez. Hein, j'imagine que vous l'aviez entendu en Espagne.
C'est ça, je l'ai entendu dans un magasin et du coup je me suis dit c'est quoi c'est... C'était un tube hip-hop espagnol du moment.
Et c'est une assez jolie chanson. Hein.
Ouais, j'aime bien.
Frédéric Taddeï se balade avec Cédric Clapiche sur Europe 1.
Me den lo que me quitan, no dan huevos de oro, todas las gallinitas. Si la vida no me sonríe, la hago cosquillita. Poco aguantan, no están preparados, no entienden. Cuando ya ha pasado, te vas harta de lo que has deseado. Te comes pescado, pero nunca ves los buenos resultados. Todavía no estáis quemados, yo me estoy tiñendo toda la ropa de dorado. Amor, entre morado y morado. Disculpa, cuando llega ya no quiere más así apaleado. Saben que tengo el cañón guardado y las estrellas y la luna de mi lado. Si te han pegado, vete y disfruta del olor de mi estofado. Soy la cocinera. Se me paga, vida, acuérdate de mí, de mi cara. Ni resumiéndote los dos te la clara. No sana hoy, sanará mañana. Voy a por lo que dijimos, tigres y bengalas. Con la tijera corta y clava. Sin tara, la mala vuela sin escala. La yaquín una cala. Otra que cuela, otra que lava, otra cara. Con la cabeza harta, mucho que manda, mucho que gana, poco que perder. No hay más nada, campo pa' correr, algo pa' la tala. Los hombres se acostumbran más a los fines de semana. No soy ni más ni menos, patillo carita. Habla de dinero, está muy foso, no me invita. Soy la cocinera de tus mejores platos. Deja que te empape con lo que yo me empapo. Voy aquí siendo mi titán, no me
C'était La Cochinera, chantée par Mala Rodriguez, pas en Espagne cette fois, mais le long du bassin de la Villette, alors que les gens jouent au ping-pong.
Sur le quai de Seine, qui est donc en face du quai de Loire.
On se retrouve dans un instant avec Cédric Lapiche.
La balade de Frédéric Taddeï et Cédric Lapiche nous permet de mieux connaître le réalisateur en dehors de ses films et notamment de connaître son quotidien parisien.
Nous sommes en voiture avec Cédric Lapiche en direction de la rue Stephenson. Il fait toujours aussi beau. Pas fatigué par cette promenade ?
Non, ça fait plaisir de marcher comme ça.
Vous marchez beaucoup ?
Pas assez, donc ça me fait du bien. Je suis beaucoup soit en vélo, soit en scooter.
Qu'est-ce que vous faites le dimanche habituellement quand vous n'êtes pas en tournage ?
C'est très variable en fait. Je vais souvent marcher le dimanche matin, à marché d'Aligre. Et sinon après, c'est soit des histoires familiales, parce que je m'occupe un peu de ma mère, et soit je m'occupe aussi de mes enfants. C'est le jour où la famille est plus réunie que d'habitude.
Ils sont plus tout petits.
Non, il y a deux grands et puis il y a un plus petit qui a 12 ans.
Ah oui, quand même, ouais. Ah oui. Celui-là, évidemment, demande davantage d'attention. Parmi, j'y pensais en voyant deux mois votre film qui sort mercredi, parmi les règles de base de l'écriture scénaristique, on nous dit toujours qu'il faut un ou des antagonistes. Et quelqu'un, un obstacle qui empêche les héros de parvenir à leur fin. Et je vous l'avais fait remarquer déjà il y a longtemps, je me souviens, au moment des poupées russes, vous avez dit que vous étiez le seul qui s'en fichait complètement. Il n'y avait pas d'antagoniste.
Il n'y a pas de méchant.
Non, pas forcément méchant, mais celui qui empêche que les choses adviennent.
Ouais.
Sinon, non, le film parce que c'est 10 minutes.
C'est vrai que c'est une pensée.
Et dans deux mois, il n'y a toujours pas d'antagoniste.
Non, je trouve que c'est une pensée un peu hollywoodienne où il faut chercher l'obstacle.
Voilà.
Et moi, je considère que l'obstacle est en nous et qu'il y a beaucoup plus de choses. Il y a plus de lutte contre soi-même que de gens qui font chier autour. Donc,
est-ce que ça complique pas par la même occasion? Parce que c'était ça, c'est une facilité, l'antagoniste, au fond.
Ah, bien sûr, hein, bien sûr. Pour ça que
on est amoureux d'une femme si elle est déjà mariée, évidemment, ça crée plus de suspense que si elle est toute prête à vous ouvrir les bras.
Non, là, il y a des choses compliquées où moi, dans le scénario, je fonctionne avec des obstacles à réussir. Mais encore une fois, dans deux mois, c'est vraiment ça. C'est vraiment des choses qu'eux n'arrivent pas à faire, les deux protagonistes, et qu'il faut qu'ils arrivent à résoudre par eux-mêmes.
Mais au fond, c'est vrai, les obstacles, c'est eux-mêmes.
Ouais.
Et dans les poupées russes, c'était ça.
C'était ça aussi. C'est-à-dire qu'on avance avec un boulet au pied, avec un frein. Il faut arriver à enlever le frein. C'est beaucoup le sujet de mes films. Ouais.
Et pourquoi ? Parce que vous-même, vous êtes votre propre obstacle ?
Je l'ai été. Je pense que je le suis moins. Je pense que justement, j'ai appris à m'améliorer. C'est vrai que moi, par exemple, pour faire du cinéma, personne ne m'a empêché d'en faire.
Peu la fémisse qui vous a refusé.
C'était mon obstacle.
Je rappelle que la fémisse, c'est l'école de cinéma parisienne, mais très décriée, donc très controversée.
Ouais. Et donc moi, j'ai fait deux fois le concours, je l'ai raté deux fois.
Ce qui est plutôt bon signe, non ?
Mais c'est vrai qu'ensuite, ce qui m'a permis de faire du cinéma, c'est les efforts que moi j'ai fait pour y arriver. Donc il y a eu des obstacles, mais l'idée c'est d'arriver à les surmonter. En tout cas, il n'y a personne.
Vous avez dû aller à New York notamment faire une école
Absolument,
de cinéma.
Absolument, ouais.
Vous avez dû vous expatrier pour.
Ouais, ça m'a fait du bien d'ailleurs de rencontrer des gens d'une autre culture, une autre langue. Je pense que ça a changé aussi le cinéma que je fais, certainement.
Mais il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le cinéma français, non seulement en concurrence avec le cinéma du monde entier, puisque aujourd'hui le monde entier fait des films, mais il est aussi en concurrence avec la télévision, il est en concurrence avec les plateformes comme Netflix, qui se multiplient elles aussi, avec les séries, on passe de plus en plus de temps devant des séries. Au fond, la concurrence, elle est partout aujourd'hui. On peut pas, on n'a pas plus de 24 heures à passer à regarder des images qui bougent.
Et puis a priori, on ne fait pas que regarder des films. Donc, c'est sûr que c'est une situation compliquée aujourd'hui. Et il y a vraiment un déplacement, la création, la jeune création, elle est plus souvent dans les séries aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est très clair, les jeunes réalisateurs américains, ils préfèrent travailler sur Game of Thrones que d'essayer de faire un film à Hollywood.
Donc, et d'ailleurs, très souvent, la jeune génération préfère aussi regarder des séries que d'aller au cinéma. Quelques blockbusters.
Non, c'est ça. Aux États-Unis, le Hollywood d'aujourd'hui s'est beaucoup appauvri par rapport à Hollywood il y a 10 ou 20 ans. Parce que les gens soit font des franchises, ils font le 8e Marvel ou le 10e Fast and Furious, Il n'y a pas beaucoup ce qu'il y avait avant à Sundance, quand on découvrait des jeunes réalisateurs qui ensuite faisaient du cinéma indépendant, ce qui a formé les Jarmusch, les David Lynch, tous ceux qu'on a connus comme étant des réalisateurs auteurs, disons américains, ceux-là, à mon avis, ils sont difficiles à trouver aujourd'hui.
Et en France, vous allez beaucoup au cinéma, vous ?
J'y vais régulièrement, en tout cas, oui. Ouais.
Et vous aimez ce que vous voyez ? Ça vous excite que, j'imagine, quand vous aviez 16 ou 17 ans
Je ne peux pas dire autant, parce qu'à 16 ou 17 ans, effectivement, c'était une espèce de joie, de fête d'y aller. Mais là, il y a quand même des émotions. Il se trouve que le dernier film que j'ai vu, il n'est pas bien, c'était le film de Tarantino. Et j'ai trouvé ça chiant.
J'ai trouvé très bien.
Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais, je me suis fait chier.
Mais bon, c'est un cinéaste, Paul.
C'est vraiment clairement du cinéma. J'étais content de le voir, d'ailleurs. Mais justement, je trouvais qu'il arrivait un peu au bout de ce qu'il a à dire, quoi. J'ai préféré d'autres films de lui, quoi.
Non, moi, je l'ai beaucoup aimé tout de même. mais c'est vrai que ça fait plaisir, voilà, de voir. Ça, c'est du cinéma qui ressemble au cinéma d'autrefois. Alors, on a l'air nostalgique quand on est comme ça, mais je me dis aussi qu'après tout, il y a des arts qui ont été très puissants et qui le sont moins et qui s'acheminent vers une retraite cool. Et après tout, bon, tant pis.
J'espère que c'est pas vrai. Non, par exemple, moi, le dernier film de Bong Joon-ho, Parasite, je trouve très très bien, moderne, et justement le mélange des genres qu'il propose.
Lui aussi, c'est un cinéaste.
Ah ben, lui, c'est un vrai cinéaste, oui. Et justement, c'est un. Voilà, c'est plus contemporain, je dirais, que Tarantino. Et je trouve qu'il propose quelque chose qui est vraiment nouveau, quoi.
Vous faites partie des créateurs de la Cinéthèque. C'était une plateforme très originale, puisque ce sont des cinéastes du monde entier qui choisissent des films. Alors là, c'est une espèce de Netflix du cinéma d'auteur, du grand cinéma.
Ouais, c'est ça, du cinéma de patrimoine, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer des films classiques, et c'est les réalisateurs du monde entier qui choisissent les 50 films importants pour eux, et ça forme le catalogue qui est présent sur cette plateforme.
Et on peut s'abonner, je le dis pour
absolument, 2,99 par mois.
On se retrouve juste après les informations avec Cédric Clapiche, toujours dans Paris ensoleillé.
Europe 1, en balade avec Cédric Clapiche. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours en balade avec le cinéaste Cédric Clapiche, le réalisateur de L'Auberge espagnole, du Péril jeune, de Peut-être, dont le nouveau film sort mercredi, Deux mois, avec Anna Girardot et François Civil. Nous sommes rue Stephenson, dans le quartier de la Goutte d'Or, l'un des plus multiethniques de Paris. Là où Zola a situé l'action de l'Assommoir.
Ah oui, je ne savais pas.
Oui, c'était ici, dans la Goutte d'Or. Et vous avez tourné ici
J'ai tourné ici, rue Stephenson. Et on a utilisé tous ces immeubles là qu'on voit autour de nous, autour du CFA. D'ailleurs, on a utilisé aussi le CFA.
C'est quoi filmer. Le CFA
Et donc, le CFA, c'est un centre de formation pour les apprentis. Et donc, il y a plein de jeunes qui sont en apprentissage et qui viennent ici.
Et donc, votre héros, dans deux mois
Non, pas vraiment. Mais en tout cas... On a tourné là, la rue de l'Incendie, c'était là.
Ouais. Et vous me parliez des immeubles, là. Il y a des immeubles modernes, assez hauts.
Ouais. Et qui ont des vues absolument dingues. D'ailleurs, on le voit ici, parce que ça, c'est une rue qui donne vers le Sacré-Cœur. On voit que le Sacré-Cœur est juste là. Ouais. Et donc, on est en bas de la butte Montmartre. Et du coup, les gens qui ont les derniers étages dans la rue Stephenson ont une vue absolument magnifique sur Montmartre. Et de l'autre côté, il y a la vue sur les rails. Donc, c'est ça qui est particulier dans la rue Stephenson. C'est qu'il y a une façade rue et une façade sur les rails de la gare du Nord. Et donc, c'est vraiment deux vues assez différentes et impressionnantes.
Et vous parliez d'apprenti. C'est vrai que votre héros fait des petits jobs non peu qualifiés dans deux mois.
Ouais.
Alors que la jeune femme, elle est chercheure sur le cancer. Est-ce que c'est plausible, une histoire d'amour Autrefois, on se disait, le jour où on se mariera par amour, les princesses épouseront des bergers. Mais en fait, on sait bien que c'est pas vrai. En fait, on épouse le même. Est-ce que c'est plausible, une histoire d'amour entre gens qui n'ont pas les mêmes revenus, pas les mêmes diplômes, qui ne viennent pas du même milieu ?
Moi, j'espère que oui. Moi, j'ai vécu déjà avec trois femmes différentes qui... En général, n'était pas du même milieu social que moi.
Mais qui faisait toutes du cinéma, non
Non, la dernière fait du cinéma. Ah bon. Je pense que c'est possible. Après, oui, mais je crois pas beaucoup, au contraire, qui se ressemble, ça semble.
Ah bon ? Et pourtant, ouais. C'est, paraît-il, ce qui se passe.
Au niveau social,
oui, les études sociologiques montrent qu'on a tendance à vivre ou à épouser le même ou la même.
Bah, c'est un peu triste.
Ce qui creuse les inégalités, d'ailleurs.
Non, là, en tout cas, je trouve que dans le film, on voit bien que lui, il est plus populaire, prolétaire, que elle, qui est plus bourgeoise. Mais on sent qu'ils ont une affinité possible. Donc, il y a quand même une...
Mais vous l'aviez fait déjà dans Ma part de gâteau, avec une histoire d'amour entre un trader joué par Gilles Lelouch et la femme de ménage de l'immeuble jouée par Karine Viard, et on pouvait se poser la même question, est-ce que c'est
là il y avait un point de départ Pretty Woman, on va dire.
Et Pretty Woman, elle est prostituée, c'est un métier, pas de classe sociale.
Non, là c'était compliqué d'ailleurs d'arriver à faire croire à cette histoire beaucoup plus que dans la dernière. Parce que l'idée du film, c'était de jouer sur des contrastes sociaux énormes. Donc c'était vraiment le but du film,
avec Cédric Clapiche.
On arrive dans la rue d'Oudeauville, qui est une des rues les plus commerçantes du quartier de la Goutte d'Or. Une rue très animée, elle aussi.
Et donc, il y a le mélange dont on parlait, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui sont soit très bobos, il y a un monsieur très chic qui passe en vélo, là.
Il y a une famille africaine. C'est ici, d'ailleurs, qu'il y avait des prières de rue qui avaient posé des problèmes à un moment.
Qui posent moins de problèmes maintenant. Et là, on va passer sur le pont d'Oudeauville qui passe au-dessus des rails de la gare du Nord. Et il y a des cafés qui sont assez modernes, je dirais, sympas. Là, on passe devant le café Néon. Il y a le café La Môme qui est au début de la rue Stephenson. Et puis il y a le café. Ils font leur propre café.
C'est la gentrification des villes dont on parle souvent. Dans deux mois, Anna Girardot a un appartement qui donne sur les lignes de chemin de fer de la gare du Nord. Et elle fait des signes à sa copine quand elle prend le train.
À sa sœur. C'est-à-dire que sa sœur va rejoindre sa mère pour Noël. Et du coup, elle fait ça. C'est parti d'une amie qui habitait dans ces immeubles-là, et où à chaque fois qu'on prenait un train à la gare du Nord avec ma femme, on lui faisait coucou, et ça me faisait toujours rire.
C'est plus facile maintenant qu'il y a les textos, parce que quand même, sinon, ça ne marcherait pas.
Et donc voilà, on entend les trains.
J'ai remarqué que maintenant, les trains sont multicolores. Vert et bleu, rose et gris.
C'est la fameuse joie. C'est le vert joyeux français, on le voit partout. Il y a toujours le orange joyeux et le vert joyeux. C'est dans les endroits sinistres, on essaye de mettre ça comme couleur.
Et il y a beaucoup de pancartes sur les grilles qui nous séparent des voies de chemin de fer, parce que sinon on tomberait. Il y a des pancartes. West Coast, c'est du sur-mesure, I love summer. Soyons romantiques, ça nous change des cadenas d'amoureux.
C'est ça, on n'est pas.
Ça pèse moins lourd.
Que t'importe ce que les autres en pensent.
Don't vote. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs.
Et donc c'est ici qu'on a tourné la scène où du cauchemar de Anna Girardot, c'est-à-dire qu'il y a son salon qui est au milieu de la rue, et donc c'était ici qu'on avait installé son salon.
Où elle se retrouve avec plein d'hommes nus, non?
De quoi ?
C'est pas le moment où elle se retrouve avec plein d'hommes nus aussi.
Voilà, c'est ça. C'était ici.
Et sa mère arrive et elle est toute gênée.
Voilà.
Il y a de plus en plus de trains qui passent. On se retrouve dans un instant avec Cédric Clapiche dans la rue d'Oudeauville.
Comme tous les dimanches, de 11h à 12h30, vous retrouvez Frédéric Taddeï en balade avec un invité. Et aujourd'hui, c'est Cédric Clapiche qui nous fait découvrir ses endroits préférés de la capitale, et notamment des endroits que vous reconnaîtrez mercredi prochain si vous allez voir son nouveau film « Deux mois ».
Et nous voilà devant le 12 rue d'Oudeauville, devant Chère Seine, fameux restaurant antillais. Vous y avez tourné là aussi ?
On n'a pas tourné, on a tourné devant chez lui, donc on a bu des coups à la fin du tournage.
Il est réputé pour ses rhums, ses badades flambées.
Absolument.
Et son colombo de cabri, vous en avez mangé. Et là, il y a dans votre film, dans deux mois, il y a une initiation au compas. Alors, c'est quoi le compas ?
Le compas, c'est la danse d'Haïti, en fait, qui a été l'ancêtre du zouk et des danses antillaises.
Avec une musique très particulière que moi j'aime beaucoup.
Ouais, c'est la musique d'Haïti. Et c'est vraiment à la fois une danse et une musique réussie, je trouve.
C'est difficile d'apprendre à danser le compas, puisque c'est...
Non,
sans
c'est
dévoiler
le
film, ça a de l'importance dans votre film, savoir danser le compas.
Ouais, mais le prof du film, il dit, si vous savez marcher, vous savez danser. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre le truc. Ça fait d'ailleurs rigoler les gens d'Haïti de voir qu'il y a des cours de compas, parce que pour eux, c'est vraiment la danse du bal.
Il y en a vraiment
danser.
À Paris, hein, des cours
de
compas.
Ouais. Et c'est facile à danser, plus facile que certainement de la salsa ou le tango, en tout cas. Ouais. Et c'est une danse de couple qui est... Une sorte de zouk, c'est entre le slow et le zouk, je dirais. C'est une danse assez sensuelle de couple et c'est facile à danser. C'est assez, c'est une vraie danse de bal, quoi, de bal populaire.
Et c'est surtout une vraie danse de couple, qui n'existe quasiment plus. Il n'y a plus de danse de couple, on danse tout seul maintenant.
Ça
semble toujours un peu triste. Et en même temps, on a beaucoup de mal à se remettre à la danse de couple quand
parce que ça gêne. Les gens sont gênés de danser.
Mais je crois que c'est la valse qui posait des problèmes parce qu'on trouvait que c'était une danse très impure au 19e siècle parce qu'on se tenait vraiment.
Ouais.
On tenait une femme qu'on ne connaissait pas ou. À une époque où on faisait très attention à ces choses-là et on la prenait, on l'enlaçait vraiment dans ses bras, quoi. C'est vrai que ça s'est perdu. Votre film se clôt sur une très belle chanson d'ailleurs, Bejos, DJ Vadim, avec Heidi Vogel. C'est vous qui l'avez trouvée cette chanson ?
Oui, c'est difficile de trouver des chansons, on va dire, romantiques et sucrées, qui ne soient pas débiles. Et celle-là, elle est réussie parce qu'elle a une espèce de rythme à l'intérieur qui est à la fois un peu hip-hop, un peu électro et qui en même temps est une vraie chanson suave, on va dire. Donc j'aime bien cette chanson.
Oui. Yeah.
Europe 1,
oui.
Oui. 11h30, si. En balade avec Cédric Clapiche.
Yeah, yeah, man, It's like this, in the depths of the soul.
Voga, voga, por toda noite. Por uma estrada colorida. Usa meus beijos.
C'était Bejos par DJ Vadim. On a entendu également Heidi Vogel. Vous faites très attention à la musique dans vos films.
Oui, c'est comme un décor, la musique, en fait. C'est quelque chose qui est plus fort que les dialogues, plus fort que plein de choses dans un film, parce que ça fait appel directement aux sentiments, aux sensations. Et donc, j'avais compris ça dans Le Péril Jeune, où en fait, en mettant de la musique des années 70, que ce soit Jimi Hendrix ou Janis Joplin ou Stone et Chardin, c'était plus fort que le décor, c'est-à-dire que ça mettait dans l'époque et c'était plus actif, disons, qu'un décor.
Et puis c'est un accélérateur d'émotion.
Oui, complètement.
Si vous enlevez les violons, il y a beaucoup de films où on est beaucoup moins ému.
Oui, absolument. Ouais, même
c'est
des films.
Comme la pluie. Vous enlevez la pluie, on a moins la larme à l'œil.
Ouais. Dans In the Mood for Love, par exemple, c'est sûr que le même film sans la musique, ça ne veut plus rien dire du tout, quoi. Ouais.
Et qu'il y ait des brumes sans la brume, c'est pareil.
Ouais.
A tout de suite avec Cédric Clapiche.
Il est midi 20, la balade de Frédéric Taddeï et Cédric Clapiche va donc bientôt se terminer, mais pas tout de suite. Il reste encore des choses à apprendre sur le réalisateur, scénariste et producteur français.
Nous voilà au bout de cette balade dans l'Est parisien avec Cédric Clapiche. On est rue Marx d'Ormois.
Nord-Est hein, quand même, on est aussi plus vers le nord.
Et Marx d'Ormois, mais on n'est pas loin de l'église où j'ai été baptisé. Voilà, c'est mon quartier d'enfance, c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Vous aussi, vous êtes parisien?
Moi, je suis parisien, moi j'étais dans le 5e arrondissement. Donc,
ah oui.
J'étais quartier latin. Moi.
Plus bourgeois.
Plus bourgeois. Même si à l'époque c'était populaire, c'était pas aussi bourgeois que maintenant.
Moi, je suis né dans la rue, j'ai été élevé par les loups.
On y croit, ouais.
C'est avec la pêche, j'avais fait partie du comité de soutien de Anne Hidalgo à la dernière municipale. Les prochaines municipales se promettent d'être particulièrement mouvementées. Il y a pléthore de candidatures. Est-ce que vous avez l'intention de vous en mêler une fois encore?
Non, disons que moi je soutiens de loin, c'est-à-dire que j'aime pas trop le côté des artistes qui soutiennent des hommes ou femmes politiques. Je trouve que beaucoup de gens gueulent sur elles de façon un peu... je trouve ça trop, c'est-à-dire que c'est pas elle qui décide de faire des travaux. Quelqu'un qui klaxonne, c'est pas à cause d'Anne Hidalgo.
Les embouteillages un peu quand même, puisqu'elle veut quand même qu'il y ait moins de voitures dans Paris.
Elle veut aussi qu'il y ait moins de pollution dans Paris, je peux pas lui en vouloir. Donc c'est vrai que moi je subis comme tout le monde les embouteillages, les travaux, en plus les travaux qui durent trop longtemps et c'est super relou, quoi. Mais je mets pas ça sur le dos d'Anne Hidalgo. Moi j'aime bien les gens qui font des choses, donc faire des travaux, a priori c'est pour que ce soit mieux après.
Mais quoi. Vous dites que vous êtes pas trop pour que les artistes soutiennent les politiques, mais néanmoins vous l'avez fait. Pourquoi l'avez-vous fait alors à ce moment-là?
Il y a eu quand même à Paris une série de gens genre Tibéri que moi je détestais, j'avais pas envie qu'ils reviennent, disons, donc c'était aussi pour ça, quoi. Ouais.
Je me souviens de vous dans une émission de télévision, vous étiez face à Bruno Gollnisch du Front National, vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous vous souvenez?
Eh ben, qu'est-ce que je faisais là? Je pense que c'était un moment où c'était pour soutenir les sans-papiers.
Ah, c'est ça, il y avait Bertrand Tavernier aussi.
Ouais, et du coup, il y avait des gens de l'extrême droite, dont Gollnisch, qui venait dire que c'était pas bien les étrangers.
Oui, c'est il y a très longtemps, au moment de la sortie ou après la sortie d'un air de famille, parce que Bruno Gollnisch avait dit qu'il vous connaissait, il savait pas qui vous étiez.
Moi non plus, d'ailleurs, je savais pas qui il était.
Et Bertrand Tavernier lui avait dit que vous étiez réalisateur du plus gros succès de l'année au cinéma.
Oui, c'est vrai, il avait dit ça. Ouais. Ouais.
C'est toujours un peu, à la fois de soutenir des politiques, c'est toujours un peu difficile, mais en plus de se retrouver face à eux. Plutôt sur leur terrain, à la télévision, ça va être encore plus compliqué, non?
Là, on est forcément désarmé, je dirais. On n'a pas le, on peut pas lutter, quoi, parce que effectivement nous on a des mots pour parler d'un film. Eux, ils ont des mots pour parler de langue de bois.
En même temps, dans les films, on parle toutes les langues.
Oui, bien sûr.
On fait parler les politiques, on fait parler les gens.
On voit bien que des gens comme Macron ou Sarkozy, leur qualité, c'est surtout de parler. Donc, voilà, c'est un métier, quoi.
Est-ce que vous pensez que les films changent le monde ?
Malheureusement, non. Je crois pas. Je pense qu'il y a des livres qui ont changé le monde.
Et pas des films. Pourtant, il y a des films qui ont tellement été vus.
Oui, mais je pense que Les Temps modernes de Chaplin, qui a un discours très clair sur quelque chose de très social, ça n'a pas changé le monde. C'est juste un référent où on se dit, voilà, être esclave au travail dans le monde moderne, c'est comme dans Les Temps modernes. Mais il n'a pas changé le monde.
Mais ça peut participer d'une sorte d'initiation à la politique ou à la révolte.
Ça participe de ce qu'on appelle la culture. C'est-à-dire que c'est quelque chose entre l'information et la réflexion et où on est nourri d'images. Et donc ça peut être vrai d'un tableau, d'une pièce de théâtre ou d'un film. On est nourri d'informations qui ensuite nous font réfléchir sur le reste du monde. Mais ça ne change pas le monde.
Quelqu'un qui aurait vu tous les films de Clapiche, les uns derrière les autres, par exemple.
Il aurait vraiment envie de changer le monde.
Donc il aurait 18-19 ans et qui viendrait voir tous les films de Cédric Clapiche, à votre avis, quelle vision aurait-il du monde, justement ?
Moi, c'est assez bizarre. On me dit souvent que je fais des films mélancoliques, et je crois que c'est vrai. Mais je suis un profond optimiste. C'est-à-dire que je pense... je crois que l'être humain peut progresser, je pense que les choses peuvent s'arranger, donc je suis assez optimiste quand même.
Et que l'homme ou la femme de votre vie, si vous ouvrez bien les yeux, il est peut-être juste à côté de vous.
Vous ne
l'avez pas encore rencontré, mais il est là. Vous y croyez, chacun cherche son chat et qu'on finit toujours par le trouver ? Parce que c'était ça aussi.
En tout cas, chacun cherche son chat, c'est toujours une vérité. C'est-à-dire que je pense que toute personne seule cherche à rencontrer. Ce qu'on appelle l'âme sœur, c'est pas une très jolie expression d'ailleurs, mais on a tous envie de tomber amoureux. Donc, et puis après, les moyens sont tordus, c'est-à-dire que tout le monde, le chemin de l'amour est complètement bizarre et différent pour chacun, donc ça c'est intéressant.
On aime bien d'ailleurs quand on a l'impression qu'une grosse part de hasard s'en est mêlée, mais au fond c'est très très rare le hasard. On rencontre les gens au bureau, on rencontre les gens quand on fait ses études, on rencontre les gens sur son lieu de travail, c'est très rare que ce soit vraiment purement du hasard.
Oui, c'est vrai que quand on regarde autour de soi quelles sont les jolies histoires d'amour que vous connaissez dans les gens que vous connaissez autour de vous, c'est toujours des histoires bizarres. Enfin, c'est toujours étonnant, quoi. Et donc,
ça aurait pu être autrement.
Être autrement. Et puis, moi, je crois beaucoup à la phrase de Céline qui dit « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches ». J'adore cette phrase. Et je trouve ça assez juste, c'est-à-dire que tout le monde y a droit. On peut être un clodo, un caniche, un moins que rien, et on a quand même le droit à l'amour. Donc j'aime bien cette phrase-là.
Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Maintenant que vous avez 58 ans, Cédric Clapiche, deux mois, votre 13e film sort mercredi avec Anna Girardot et François Civil. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain pour une autre balade. À bientôt, Cédric Clapiche.
À bientôt, merci.